Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Je vais avoir le plaisir d'échanger avec Eddy Fougier pour la présentation de son livre « Ne désespérons pas de la France et les Français » paru aux éditions de l'Aube au mois de juin 2024. Bonjour Eddy Fougier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Vous êtes politologue, expert consultant, chargé d'enseignement à Sciences Po à Aix-en-Provence, à Audencia Business School à Nantes et à l'Université de Versailles et Saint-Quentin en Yvelines, et aussi fondateur de l'Observatoire du Positif. Alors vous faites plein de choses. Quels sont vos domaines d'expertise?
Alors, mes domaines d'expertise, il y en a plusieurs. Il y a les officieux et les officiels. Les officiels, c'est effectivement que je travaille plutôt sur la question des l'évolution des idées politiques et notamment des mouvements protestataires et plus précisément des mouvements protestataires qui agissent avec des modes opératoires violents et ce qui m'amène à travailler principalement sur des questions autour de la violence. Et d'ailleurs, l'enseignement que je donne à l'IEP d'Aix était consacré à la violence et aujourd'hui aux conflits internationaux. Donc, ce n'est pas très nécessairement positif.
À
Ceci
Sciences
dans cela, je vous expliquerai tout à l'heure.
À Sciences Po Aix-en-Provence, vous connaissez peut-être Raphaël Yoger, qui a lui aussi écrit un bouquin dont le titre est Chaos.
De nom, mais pas plus que ça.
Alors, c'est quoi l'Observatoire du Positif?
Ah, ben justement, moi je travaille et je suis exposé sur des sujets qui sont très négatifs, voire anxiogènes. Quelquefois, j'ai l'habitude de dire à des interlocuteurs, lorsqu'ils me disent à bientôt, je leur dis, vous êtes sûr? Ça veut dire qu'il va y avoir un problème. Définit quelquefois comme une pierre de la faim. Vous savez ce que c'est? Lorsqu'il y a des sécheresses, on voit apparaître des pierres dans les fleuves et avec des dates. Et les contemporains qui ont connu des grandes difficultés en matière de pluviométrie mettaient des dates en disant si vous voyez ces dates, c'est pas du tout bon signe. Et en général, c'est mon cas. Je suis là plutôt pour intervenir sur des sujets qui sont plutôt négatifs. Et il y a eu le confinement, comme vous le savez, et à un moment donné, je me suis dit, bon, on est submergé, bombardé au quotidien d'informations toutes plus anxiogènes les unes que les autres, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Ça m'a amené à évoluer un petit peu en me disant, mais finalement, comme pour le climat, j'ai des émissions qui sont principalement négatives dans l'espace public. Et donc, je vais essayer de compenser ça. Je ne vais pas planter des arbres, mais je vais essayer de compenser ça par des émissions un peu plus positives, ce qui m'a amené à publier quelques articles avec un état d'esprit positif. Et puis, à partir de 2021, donc j'ai décidé de créer cet observatoire qui est quelque chose qui n'est pas structuré en tant que tel, mais qui se traduit en particulier par un compte sur X, à l'époque Twitter, où chaque jour, depuis plus de 3 ans, je mets une information positive, au moins une information positive par jour, et j'essaie de publier des analyses qui sont positives. C'est ce qui m'a amené de près ou de loin à publier un article sur la France et à être remarqué, entre guillemets, par Jean Viard, qui m'a proposé de faire l'ouvrage dont on parle aujourd'hui.
Philippe Galimet conclut la préface de votre livre, je cite, Élie Fougier nous offre, dans les lignes qui suivent, une leçon sans égale d'enthousiasme citoyen résolu aux couleurs de la créativité, de l'engagement et de la confiance dans des lendemains qui ne demandent qu'à chanter, à condition qu'on leur offre collectivement la que l'on offre collectivement la possibilité. C'est un bel éloge.
C'est très gentil de sa part. Il a eu la grande gentillesse d'accepter de préfacer ce livre. J'ai beaucoup d'estime pour Philippe Gabillet, qui est certainement le meilleur spécialiste en France de l'optimisme, qui a écrit également sur la chance. Et je voulais donner une connotation, un petit peu une coloration optimiste par rapport à ce livre, qui a une histoire assez compliquée en fait. Par-delà sa publication. Donc, Jean Viard me demande en 2022, il est sorti en juin 2024, de développer un petit peu les idées que j'avais mises sur un petit papier consacré à la France. Je remets le texte en 2023, et puis là, les commerciaux de la maison d'édition et surtout les libraires sont pas très convaincus. Un livre positif sur la France, c'est vraiment pas dans ce qu'ils imaginent être le plus vendeur, entre guillemets, puisqu'il y a cette dimension quand même économique et commerciale. Et puis, il doit sortir en octobre 2023. Il y a des événements internationaux dramatiques qui font que, bon, voilà, c'est repoussé. Puis c'est repoussé en janvier, puis c'est repoussé au printemps. Et puis, on trouve quand même une fenêtre de tir. Je suis désolé pour cette image, en se disant, bon, bah, on va sortir ça en juin. Il y a la perspective des Jeux Olympiques, malgré les critiques, malgré les interrogations sur la capacité de la France à organiser des Jeux Olympiques. Bon, ça paraît être une opportunité. Et puis, le 9 juin, tout le monde le sait, le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout le monde anticipe le fait que le Rassemblement national va l'emporter. On voit tous Bardella, Premier ministre, inaugurer les Jeux Olympiques. Et 5 jours après, mon livre sort. Donc, c'est vrai que c'est. Alors à ce moment-là, il y a eu un peu de médiatisation où certains journalistes me disaient, c'est de la folie, ou d'autres me disaient, bah, il tombe bien. Mais en tout cas, on voit que ça ne va pas de soi de parler positivement de la France, surtout encore une fois dans la conjoncture politique, mais pas uniquement politique, que l'on est en train de traverser. Alors, mon objectif à travers ce livre n'est pas de dire tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas une chronique de la France qui va bien, des Français qui vont bien, des catégories sociales qui n'ont pas de problème particulier. Je pars de la réalité en refusant toute forme de déni, en disant non, effectivement, il y a des problèmes qui sont très importants, il y a des défis auquel le pays est confronté. On le voit bien en ce moment sur le plan politique, on le voit bien sur le plan économique, avec la question du budget public. Mais il y a aussi une autre partie du pays que l'on voit peu dans les médias, que l'on voit peu dans l'espace public, sur les réseaux sociaux ou dans les mondes de l'édition, j'en suis la preuve, qui va bien, où il y a des initiatives, et pas uniquement des initiatives de start-up ou de tout ce que l'on peut voir habituellement sur en matière d'innovation, mais je dirais la France d'en bas, comme le dit le nouveau Premier ministre, qui prend à bras le corps un certain nombre de problèmes, qui ne cherche plus nécessairement, qui n'attend plus la solution venant d'en haut, et qui, au niveau des élus locaux, des associations, des bénévoles d'associations, des aidants de personnes en difficulté, de toutes les petites entreprises à un échelon territorial, de collectifs divers, et j'en donne quelques exemples dans ce livre, qui essaient de façon très pragmatique, sans idéologie, sans nécessairement que l'on retrouve les grands clivages qui font la joie des journalistes politiques, essaient de résoudre concrètement des problèmes et de trouver des solutions. Et c'est ça.
Jean Viard ou vous-même saviez qu'Emmanuel Macron allait dissoudre l'Assemblée?
Non, mais non, mais bien sûr que non. Mais c'est vrai que c'est.
Parce que ce livre arrive à point.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y avait.
Les maisons d'édition ont dû s'arracher votre manuscrit.
Non, 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 a priori, non. Mais c'est vrai que quand
Les
tu entends.
éditions de l'Aube, c'est quand même enfin, même c'est une maison d'édition que je suis de près et j'aime beaucoup ses publications.
Régional.
Et j'aime bien ce que fait Jean Viard, mais c'est quand même une petite maison
Bien
d'édition
sûr.
par rapport aux mastodontes que
Bien sûr.
l'on connaît.
Bien sûr, bien sûr. Donc, je vous ai dit, il y a une petite médiatisation sans plus. Et c'est vrai que à chaud, l'image que j'avais, c'était l'image de Bourvil dans le Cornio, la première scène où il se retrouve avec le volant et après son accident, en disant, ben, ça va plus marcher maintenant. Donc, bon. Mais plus sérieusement, les événements qui se sont produits cet été sont intéressants de ce point de vue parce que cela montre justement que la thèse que je défends selon laquelle il y a aussi une France qui essaie, alors encore une fois, de trouver des solutions, qui essaie de s'en sortir tant bien que mal et qui a un état d'esprit plutôt positif, bah, finalement, c'est celle-là que l'on a vue cet été. Et le sous-titre du livre, c'est cette France qui plie mais ne rompt pas. Ben, regardons les élections législatives. Le premier tour, effectivement, c'est plutôt la France qui plie qui a été dominante. Et puis le deuxième tour, ben, c'est aussi la France qui ne rompt pas, avec ce front républicain qui a fait que ben, finalement le Rassemblement national n'est pas devenu majoritaire et l'organisation des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques et les réticences au regard des sondages d'une partie des Français, certains regrettant même que l'on ait eu les Jeux olympiques à Paris. Et puis finalement, ils se sont pris au jeu, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a eu un enthousiasme, une réappropriation d'un certain nombre de symboles comme le drapeau, la Marseillaise, Johnny Hallyday, je rigole. Et même la notion de fierté que l'on voit, que l'on
Et
entend
puis
aujourd'hui.
de faire ensemble, de s'amuser ensemble.
Et de ce côté festif, cette joie collective, cette idée que bah, on est tous ensemble autour d'une même cause, c'est aussi ça que l'on a pu voir et qui est à la fois rassurant d'un point de vue collectif et qui correspond à ce que j'essaie de faire avancer, de montrer dans ce livre, qu'il y a aussi une autre France.
À propos des Jeux Olympiques, est-ce que vous trouvez qu'il a été judicieux de séparer les Jeux Olympiques, entre guillemets, des sportifs normaux, et les Jeux Paralympiques? Il y a là un vrai débat.
Oui et non, c'est-à-dire que.
Ce que disent les Paralympiques, c'est qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'organisations importantes supplémentaires, qu'ils pouvaient parfaitement mener leur discipline dans les conditions qui étaient proposées aux autres athlètes, et qu'ils auraient eu et que c'était un moyen d'intégration, alors que là, ça a été à nouveau un moyen de séparation.
D'un certain point
Mais
de vue,
le débat est patent, hein,
oui, non, mais d'un certain point de vue, cet argument est audible. En même temps, regardons ce qui se passait auparavant. Ce qui se passait auparavant, c'est que vous aviez les Jeux Olympiques ultra médiatisés et puis les Paralympiques 2 ou 3 mois après.
c'est ça.
Là, les Paralympiques ont suivi quasi immédiatement les Jeux Olympiques. Ça a été une sorte de deuxième chance pour les Parisiens qui étaient partis en vacances et qui revenaient, qui avaient regretté de ne plus être sur place et qui ont pu participer, assister aux épreuves sur les mêmes lieux. Donc, je trouve que cet argument est audible, mais il y a eu vraiment un effort de fait à Paris, justement, pour que ces événements soient le plus proches possible et sur les mêmes lieux. Et jamais on a eu autant de public, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, mais sur les Jeux paralympiques, jamais il y a eu autant de médiatisation. À ma connaissance, on ne voyait pas sur France Télévisions avant toutes les épreuves paralympiques comme on le voyait pour les Jeux olympiques. Donc, je trouve que justement, on cherche un petit peu la petite bête alors qu'on ne voit pas tous les efforts qui ont été produits et les avancées majeures qui se sont produites cet été sur justement la médiatisation et la popularisation des athlètes des Jeux paralympiques.
Tout à fait humblement, moi j'ai découvert des sports paralympiques que je ne connaissais pas, le sessifoot, je trouve ça absolument extraordinaire, pas tellement le fait que des personnes non-voyantes jouent avec une balle, mais le silence qui régnait dans la salle au moment où les joueurs devaient se disputer la balle, je trouve ça absolument extraordinaire. Et j'ai également été très étonné par la performance physique des joueurs de rugby en fauteuil, des joueurs de basket en fauteuil, mais des hommes et des femmes. Je trouve ça absolument extraordinaire. Ce sont des gens qui ont un courage, une volonté aussi importants que celui des athlètes normaux.
Tout à fait, valide. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans les 10 portraits que je consacre à ce que j'ai qualifié de Français formidable, il y a Marie-Amélie Le Fur, qui était d'ailleurs parmi les porteurs de la flamme juste avant, lors de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques, et même des Jeux Olympiques au passage, et ou Philippe Croizon, qui n'est pas un athlète paralympique, mais qui est connu pour des exploits aussi. J'avais pensé à Théo Curin, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus.
J'ai prévu de
Exemple.
réaliser une émission avec avironneuse qui habite Aix-en-Provence et qui s'entraîne à Marseille et qui elle aussi a remporté une médaille aux Jeux paralympiques.
Oui, et pour moi, c'est assez symptomatique dans notre façon de voir l'actualité. C'est-à-dire que enfin, c'est, moi, je me réfère en ce moment un peu à l'allégorie ou au mythe de la caverne de Platon. C'est-à-dire que, même si ça paraît un peu sophistiqué, mais d'habitude, effectivement, on est dans la caverne. Et dans cette caverne, par exemple, lorsqu'on parle de sport, on parle principalement de football. C'était pas référence nécessairement à l'OM, mais c'est vrai qu'on parle de l'équipe de France, on parle de grandes figures du football, et puis les autres sports valides ou a fortiori des sports faits par des athlètes handicapés sont totalement passés inaperçus. Et cet été, on est sorti un peu de la caverne et on a découvert des sports. Vous parliez de là cet été le sans les Jeux paralympiques, sans les Jeux olympiques, l'événement de l'été aurait été le fiasco de l'équipe de France à l'Euro de football. On n'en a plus entendu parler. Et aujourd'hui, on a en tête plutôt la victoire des Sessifoot ou des différents athlètes. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est, encore une fois, c'est le fond du message que j'essaie de faire passer en disant, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que le foot, il y a autre chose. Il n'y a pas que la politique et ses divisions et ses polarisations, il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que des nouvelles affreuses que l'on reçoit de façon, encore une fois, systématique. On parle d'infobésité et d'autres, de surcharge informationnelle, de fatigue informationnelle. Il y a autre chose. Alors, c'est vrai que c'est un petit trou de souris quelquefois. Quand je donne des informations positives, on me dit toujours… Est-ce qu'il y a des informations positives? Comment on en trouve? J'arrive à un stade où j'ai tellement d'informations positives que je les filtre. C'est 1 sur 10 maintenant. Donc ça existe. Mais effectivement, on a un réflexe. J'ai publié par ailleurs une note récemment y essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à voir ces informations positives, pourquoi on est enclin à voir les informations plutôt négatives. Ou l'éternel, enfin toujours la même chose, quoi, de la politique, du foot, etc.
Vraisemblablement, les journalistes, les médias, les réseaux sociaux, tous ces courants de transmission de l'information noient les personnes qui les reçoivent et qui n'ont pas la capacité de faire le tri.
Bah, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que du côté de l'offre, effectivement, vous avez des acteurs, vous l'avez dit pour les médias, j'ai fait référence tout à l'heure à l'édition, on peut mettre sur les réseaux sociaux, on sait très bien que sur X, ex Twitter, si vous mettez une information positive, ça va avoir beaucoup, beaucoup moins de d'impact que si vous mettez quelque chose d'anxiogène, a fortiori si c'est une fake news. Mais il y a des politiques aussi, il y a des experts. Effectivement, si vous êtes un expert décliniste, on va mieux vous entendre et on va considérer que ce que vous dites est plus conforme à la réalité. Ça me révolte de penser que le déclinisme, le pessimisme, c'est du réalisme. Non, non. Là, sur les Jeux Olympiques, c'était quoi le réalisme? C'était considéré que ça allait être un fiasco, que les Français n'allaient pas s'intéresser aux Jeux Olympiques, que les athlètes allaient être nuls, etc., etc. Non, le réalisme, c'était de dire, moi, j'essayais de le faire passer à mes étudiants en leur disant, mais ça va être extraordinaire, les Jeux Olympiques.
Ça a effectivement été extraordinaire d'intelligence, d'inventivité, de créativité, de beauté, de courage, parce que ce qui a été proposé était
Puis ce qui était
absolument,
intéressant,
absolument inédit.
et puis je reviendrai après sur le fil de mon analyse, mais ce qui était intéressant, c'est que par rapport aux cérémonies, par rapport au cadre, on n'a pas essayé de singer ce qui se fait en général en termes de spectacle, à savoir les Américains en moins bien. Et là, on a innové. Et ce qui était intéressant dans la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, c'est quand on a vu Tom Cruise descendre en rappel sur sa moto, on s'est dit, ah oui, enfin, moi je me suis dit ça. Bon, c'est du classique, ça. On l'a déjà vu des millions de fois. Alors que ce qu'on voyait, le piano vertical, Armanet qui chante Imagine sur la scène ou ce cheval, enfin, ça c'était extraordinaire. C'était d'une créativité, d'une beauté, d'une poésie extraordinaire. Alors, il y a ces acteurs effectivement qui, pour des raisons commerciales ou idéologiques ou diverses, ont intérêt à mettre l'accent sur le négatif.
Le CIO, c'est quand même la plus grosse organisation économique sportive au monde.
La FIFA est pas mal aussi. Et puis de l'autre côté, nous, là, du côté de la demande, notre cerveau, par exemple, et je ne suis pas un spécialiste des neurosciences, mais enfin, ce que l'on sait du cerveau, c'est qu'il va d'abord être attiré par ce qui est négatif pour des raisons de survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'il y a une menace, il y a un danger, on va y être sensible. Regarder une jolie fleur, ça n'a pas aidé à la survie de l'espèce. Alors que anticiper le risque d'être attaqué par un prédateur, là, c'était. Et donc, on a ce réflexe qui nous amène à regarder d'abord le négatif plutôt que le positif. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui nous amènent à minimiser le positif. Par exemple, la plupart des progrès que l'on vit, quand on regarde la situation par le passé, sont invisibles. Alors que lorsque vous avez une dégradation d'une situation, elle est très visible. Donc, on ne fait plus attention on considère que les progrès sont normaux. Ça va de soi. Dans l'amélioration du confort de vie, dans l'amélioration du système de santé, etc., etc. Mais on ne va mettre l'accent que sur la situation des urgences, sur des moyens qui sont défaillants, etc., etc. Mais on ne voit pas, il n'y a pas cette gratitude collective que l'on peut avoir par rapport aux progrès qui se sont produits, parce que ça va de soi, ça va de
Ben,
soi.
c'est peut-être du toujours plus. Que on dispose d'un certain nombre de services publics, mais qui fonctionnent plus ou moins bien, mais là, on pourrait
Et
longuement en
on ne va
discuter.
voir que ce qui ne marche pas. Et ce qui marche,
Mais,
c'est normal. C'est ça
c'est ça.
qui est. Alors, c'est pas pour dire que, encore une fois, ce n'est pas pour
Non,
justifier
mais c'est,
le
on a
système.
en ce moment l'exemple de ce procès de Mazan, où un homme avant. Oui, a vendu sa femme pour qu'elle subisse des relations sexuelles. Et on ne parle pas de tous les couples qui vont bien et qui s'aiment, qui ont une vie familiale tout à fait épanouie, et qui participent à la beauté du monde.
Exactement. Et c'est vrai que que ce soit nous en tant que spectateurs, téléspectateurs, internautes, auditeurs ou les médias en face, effectivement, on a des informations qui ne sont pas le reflet de la réalité, mais le reflet d'une rupture de la normalité, c'est-à-dire les violences conjugales, les violences sur les enfants, les dérapages dans tel ou tel à l'école, dans les EHPAD, etc., etc. C'est une rupture de la normalité, et c'est pas le microcosme, le symbole d'une situation normale. Et c'est ça. Et quelquefois, vous avez des militants qui sont dans leur propre logique, qui vont en tirer des conclusions, par exemple sur les relations hommes-femmes, sur les relations entre les patrons et les ouvriers, sur les relations entre les générations, etc., etc. Et tout ceci nourrit une fragmentation de la société et une polarisation de la société. Donc, je dirais, mon message est aussi, de façon implicite, un message de nature politique.
Peut-être qu'une des difficultés, c'est qu'on entend des journalistes ou on est abonné à des réseaux sociaux. En tous les cas, on reçoit une masse d'informations absolument démesurée, alors qu'on entend peu les chercheurs et les scientifiques.
Oui. Alors après, aujourd'hui, on voit aussi des chercheurs et des scientifiques qui, pour différentes raisons, vont développer un discours aussi qui peut être vu comme catastrophiste, ce qui est peut-être légitime au regard, par exemple, de l'évolution de la biodiversité ou du climat. Mais certains chercheurs nourrissent aussi. Mais ce qui est assez intéressant à ce propos, c'est quelquefois les articles de vulgarisation d'articles scientifiques, d'études scientifiques. Effectivement, vous regardez l'étude scientifique, alors elle est difficile d'accès, mais c'est souvent très nuancé, alors que l'article dans la presse qui va reprendre un petit peu les conclusions de l'étude scientifique met l'accent sur le scénario le plus catastrophique, parce qu'il faut attirer, il faut qu'il y ait une prise, comme en escalade, il faut attirer
Tous ces
le regard.
médias ont besoin de servir la soupe, que leurs auditeurs, leurs lecteurs ont besoin de recevoir et d'entendre. Donc on est là dans une démarche très...
On est tous prisonniers d'un schéma, c'est-à-dire que nous, en tant que lecteurs, ou internautes, on va regarder un titre qui est bien accrocheur, bien catastrophiste. Le journaliste sait que en mettant ce titre, même si le contenu de l'article est un peu différent, ça va générer du buzz, du clic. Et le chercheur, quelquefois, le scientifique est un peu complice de ça, parce qu'il sait très bien qu'en travaillant sur certains sujets, il y aura une médiatisation et donc il y aura un petit peu de bruit autour de ses recherches, et donc peut-être du financement, peut-être des publications dans des revues, etc., etc. Donc on est dans un schéma de négativité dont on sort rincé d'un point de vue mental, et on sait très bien que aujourd'hui les questions de santé mentale, notamment liées à ces informations anxiogènes, sont très préoccupantes, et ça peut avoir un impact sur la santé physique également. Et donc tout ceci aboutit quelquefois d'un point de vue extrême. Il y a des chiffres qui sortent maintenant sur des, en anglais on appelle ça news avoidance, c'est-à-dire des personnes qui refusent de s'informer. Et des chiffres ont été publiés de ces dernières années où on voit que dans 20 pays, dans une enquête a montré que vous avez 39% des personnes qui refusent de s'informer maintenant. Ce qui est pour moi très dommageable pour les conditions d'exercice d'une démocratie, parce que si vous n'avez pas
C'est
d'accès à l'information.
une forme de protection à cette pollution informationnelle mais qui aussi peut être la conséquence de l'atténuation ou l'abandon de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on
Oui, parce que
peu de gens prennent la peine tous les jours de lire trois journaux différents ou d'écouter trois radios différentes, parce que ça demande du courage, de la volonté, du temps, parfois un peu d'argent, et donc enfin, peu de personnes le font.
oui, parce qu'on est dans cette logique, encore une fois, ce bombardement, je suis désolé pour cette image, mais ça permet de bien saisir un peu l'effet que ça peut avoir d'information. Et on est dans une logique de passivité la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on les reçoit, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail des alertes, des notifications, on a une information,
Le temps
explosion
ou
de
les
beeper,
compétences.
on a explosion de beeper au Liban. Bon, on ne remet pas ça dans un contexte plus large, on ne sait pas est-ce que c'est nouveau ou pas. Et c'est vrai que ça a abouti à une grande passivité. Et le résultat, vous l'avez dit vous-même, l'esprit critique est relativement secondaire dans ces, parce que bon, on est dans une indigestion, parce que là, certains parlent de mal info, hein, comme on parle de mal bouffe, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à digérer tout ce qui se produit, tout ce qui est ce qu'on doit avaler entre guillemets, et certains, encore une fois, choisissent plutôt l'évitement. Ou le divertissement. Moi, je le vois avec mes étudiants en école de journalisme. Beaucoup ne s'intéressent pas nécessairement à l'actualité dite générale, mais vont se concentrer sur le sport, la mode, la culture populaire ou les faits divers. Pour moi, ça n'est pas. Enfin, c'est une forme de justement d'évitement d'une actualité beaucoup trop anxiogène en tant que telle. Et ça, je trouve ça dangereux pour la démocratie.
Un autre modeste niveau, l'Université populaire de Marseille Métropole propose cette année 40 conférences sur le fil conducteur, quel monde voulons-nous? Et on aborde cette interrogation au travers des sciences, du langage, de la philosophie, de l'économie, de l'histoire, de l'anthropologie. Et donc c'est une proposition de réveil, de sursaut vital, au moins intellectuel. C'est qu'est-ce qu'on veut, mais surtout qu'est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour y participer. Parce que c'est bien d'avoir des invocations, ouais, il faut tout changer, il n'y a qu'à Faucon, mais individuellement, qu'est-ce qu'on fait, quand, comment et pourquoi?
Tout
Est-ce
à
qu'on
fait.
le fait pour soi individuellement? Est-ce qu'on le fait pour soi, sa famille, et peut-être ses voisins, ou est-ce qu'on le fait dans un intérêt général? Et donc cet intérêt général, de mon point de vue, est insuffisamment pris en compte.
Oui, et encore une fois, sur cette question d'information, on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive difficilement, là, il y a une étude qui a été faite récemment aux États-Unis qui montre qu'on arrive difficilement à faire la part entre les faits et l'opinion. C'est-à-dire que on va considérer que un élément est un fait si ça correspond à notre vision des choses, et si on considère que ça ne correspond pas à notre vision des choses, on va dire c'est une opinion, c'est pas un fait. Donc on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur des faits. Plus des personnes qui ne veulent pas s'informer. Donc déjà, je pense que le préalable, c'est effectivement de partir d'une vision commune de la réalité, et sans tenir compte, en essayant de dépasser aussi ces réflexes et ces biais qui sont bien maintenant bien connus, comme les biais de confirmation. On va chercher des informations qui vont valider notre propre vision des choses, mais aussi les biais négatifs, encore une fois, parce que systématiquement, et même en termes de journalisme, aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits, notamment ce qu'on appelle le journalisme de solution, qui ne veut pas s'en tenir qu'au constat. Voilà quels sont les problèmes. Ils vont essayer de aussi, de, non pas de, c'est pas un journalisme de bonne nouvelle, mais ils vont essayer de dire, voilà les constats, mais voilà les solutions que les différents acteurs envisagent. Donc, je pense que au fondement de tout ça, il doit y avoir une évolution des états d'esprit, ce qui est loin d'être évident aujourd'hui dans le contexte informationnel que l'on connaît.
Vous avez raison, les journalistes dits de proposition apportent des informations complémentaires à leurs observations, dont les livres, généralement, il y a en bas de page des notes qui renvoient à des ouvrages ou à d'autres choses, mais ni à la radio ni à la télévision, les journalistes citent leurs sources. Ou quand ils les citent, souvent, ils les citent de manière, c'est-à-dire presque malveillante. en tous les cas, encore une fois, pour faire le buzz. Nous parlions des Jeux Olympiques tout à l'heure. Je me souviens de l'intervention d'Alain Bauer, qui est le spécialiste, avec plein de guillemets, de la sécurité en France, qui disait, mais c'est un suicide, quoi, ça. Il va y avoir des morts partout.
Oui, mais je ne vais pas le mentionner explicitement, mais pour moi, c'est le profil type de cette vision extrêmement négative qui vous permet effectivement d'être médiatisé, qui vous permet de passer pour quelqu'un qui avait prédit, parce que s'il y a un événement dramatique en termes d'insécurité, de délinquance jusque
J'avais raison, je l'avais prédit.
Et il va effectivement se présenter comme celui qu'il avait envisagé. Et c'est vrai que c'est, enfin pour moi c'est un peu insupportable. Alors je suis
Oui, mais comment vous expliquer, à part souci économique, les radios et les télévisions n'invitent que ces spécialiste avec plein de guillemets. Parce que, enfin, moi, j'ai vu évoluer des journalistes sportifs qui devenaient des journalistes de la santé la semaine suivante. Alors, je veux bien que les journalistes.
Politique, on en connaît un.
Ça, c'est juste incroyable que les télévisions, les journaux, mais y compris les télévisions, les radios d'État, qui devrait servir le service public, donc le bien commun, n'invite que des journalistes qui sont pas souvent très très compétents.
Sur la compétence, je ne vais pas nécessairement juger, mais effectivement, une posture positive sur tel ou tel sujet n'amène pas de prise au sens de l'escalade du terme aux yeux des journalistes et des médias. Ça c'est clair. Si vous arrivez en disant ça va être génial, ça va bien se passer, il n'y aura aucun problème majeur et bon. C'est pas très vendeur. Et en plus, dans cette mauvaise image du discours positif, pour moi, c'est aussi le reflet du fait que les acteurs qui ont ce discours positif sont des acteurs plutôt impopulaires. Parce que qui a un discours positif? Le gouvernement, les grandes marques, ou les institutions internationales. Et en général, ces acteurs sont relativement peu populaires. Alors, les grandes marques, c'est différent, mais sont l'objet de très nombreuses critiques. Et donc, on va considérer qu'un discours positif, c'est de la com, ou c'est quelqu'un qui nous vend quelque chose. Donc, ça, pour moi, ça, outre notre réflexe à voir le négatif, ça conforte l'idée que le positif, c'est vraiment. Et d'ailleurs, moi, le premier chapitre dans mon livre, c'est un chapitre que un décliniste n'aurait jamais écrit, en justifiant sa posture. C'est juste pour dire, non, c'est pas un livre macroniste, par exemple. C'est pas un livre pour défendre le système. C'est pas un livre pour défendre le gouvernement. On peut
Hier,
en défendre quelque chose.
j'entendais une interview du directeur de la Banque de France qui disait, ça va pas bien, mais c'est pas catastrophique. Et voilà quelques propositions pour rétablir la situation en 5 ans. Bon, discours technique. On peut pas dire que le directeur de la Banque de France, bah, ne connaît pas les chiffres, ne connaît pas les mécanismes. Ce matin, un homme politique était interrogé sur le même sujet, donc sur l'économie, le rétablissement du budget. Et lui disait, non, il faut raboter les services publics, donc faire moins de dépenses, mais surtout ne pas faire de prélèvements supplémentaires. Alors que c'était pas du tout la proposition du directeur de la Banque de France hier. Donc il y a cette dichotomie, cette différence de regard entre le technicien et Moi, j'aime bien les techniciens qui disent, les fonctionnaires qui disent, mais faites-nous confiance. Parce que nous, on sait, enfin, on a l'habitude, on a les compétences quand on ne nous les a pas retirées, mais en tous les cas, il y a de grandes compétences et on a l'envie de bien faire. Alors que les politiques disent, non, non, les techniciens, ce sont ceux qui doivent exécuter ce qu'on leur demande.
Exactement. Et ce que l'on voit bien dans ce schéma, c'est que celles et ceux qui instrumentalisent une situation jugée négative le font à des fins idéologiques, politiques, y compris les déclinistes. Parce que les déclinistes, je ne vais pas citer le nom de tel ou tel expert décliniste, mais bon, disons un Nicolas Bavrès, par exemple, qui publie à longueur de colonnes de ses chroniques dans Le Point ou dans Le Figaro, sur la France, l'homme malade de l'Europe, etc., etc. À la fin,
Peut-être Michel Onfray aussi.
voilà, dans un autre contexte, et à la fin, il y a voilà ce qu'il faut faire avec l'idée d'une purge, etc., etc., plutôt libérale. Bon, mais on est toujours dans le même. Il y a un constat dramatique, et voilà ce que je propose à la fin, ou la même chose pour les hommes politiques. Donc, il faut pas être dupe de tout ça, comme des acteurs vont le faire pour des raisons économiques. On sait très bien que, encore une fois, si vous mettez des informations négatives sur les réseaux sociaux numériques, vous aurez plus d'impressions, vous aurez plus de partages, et donc vous serez plus sur les réseaux sociaux, et donc les réseaux sociaux ont tout intérêt à ça. Même chose pour les éditeurs. Je le vois encore une fois, si j'avais proposé la France qui s'effondre à un éditeur, j'aurais peut-être eu plus de succès que si j'arrive avec un livre positif sur la France. Mais c'est ainsi. Ça fait partie de ce système de négativité dans lequel on se trouve. C'est pour ça que je donne la métaphore de la caverne, parce qu'on est tous dans la caverne et on pense que c'est la réalité. En fait, ce sont des ombres. Et quelquefois, on sort de la caverne. Cet été, on est sorti de la caverne. On y revient tranquillement.
Et même rapidement.
Voilà, mais on a vu la lumière à un moment donné. On sait qu'il y a autre chose. On sait qu'il y a autre chose. Et c'est ça qui est important.
Vous écrivez à un moment, cette France qui bouge et qui innove, quels sont ses atouts? Parce qu'en fait, on a parlé beaucoup de ce que l'on peut regretter. Mais il y a plein de choses qui vont bien en France. On a, pendant l'épidémie de Covid, on a parlé des personnels de santé, on a peu parlé des logisticiens, ceux qui travaillent au fond des entrepôts, on a parlé des gilets jaunes. Mais moi, je n'ai pas le sentiment que c'est passé le saint, passé la fête. Il y a eu un événement, les gilets jaunes qui se sont rebellés. Il s'est pas passé grand-chose après, je vous ai compris, c'est ce que disait le général de Gaulle. À propos du personnel soignant, il y avait les applaudissements à 20 h, les bruits de casserole, et après.
Ben c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu sortir d'une vision un petit peu classique de la France qui va bien, c'est-à-dire la France des CSP+ et des startups. Pour moi, ça n'est pas que ça, la France
Merci.
qui non pas qui va bien, mais qui essaie de prendre les problèmes à bras le corps. Et c'est pour ça que j'ai voulu notamment faire un chapitre sur ce que j'ai appelé les murs porteurs de la société. C'est-à-dire que, et on le voit bien dans la période actuelle, où il n'y a pas de gouvernement, mais le pays continue à tourner.
Bien sûr.
Regardez, il n'y avait pas de ministre de l'Éducation nationale, il y a eu une rentrée, il n'y a pas eu de couac particulier.
Non, mais
Donc,
c'est ce que j'indiquais, c'est que les fonctionnaires font leur boulot, le font bien, à condition qu'on les laisse faire et qu'on leur donne les moyens de le faire.
Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre l'accent sur ces différentes catégories, notamment des catégories qui sont relativement peu valorisées socialement ou qui sont peu rémunérées. J'aime bien l'expression femme du lien qu'un journaliste avait mis en avant. Effectivement, toutes ces femmes, de la nounou jusqu'à l'aide aux personnes âgées, en passant par les soutiens scolaires, etc., etc. Ce sont personnes souvent invisibles, mais qui permettent à la société de vivre. Une chose, vous parlez de la logistique, effectivement, entre le moment où on clique sur son appli et le moment où on a le colis qui est livré, y compris quelquefois dans la journée, bah, vous imaginez que derrière, il y a plein de gens qui travaillent. Il y a plein de gens qui travaillent. Et c'est invisible. Ce sont des invisibles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai essayé de mettre aussi en avant bah, toutes les professions de l'artisanat, de l'agriculture, que l'on ne voit pas. Quelquefois, on les voit. Justement, vous parlez des mouvements sociaux, on l'a vu avec le mouvement des agriculteurs au début de l'année, et qui sont indispensables. On ne peut pas vivre sans. On peut très bien vivre sans trader, on peut très bien vivre sans community manager, sans happiness, je ne sais quoi, les spécialistes du bonheur au travail, sans agriculteur, sans plombier, sans nounou, sans infirmière, on ne peut pas vivre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu leur rendre hommage. Et justement, vous faisiez écho à ces applaudissements nourris à 20 h. Et je pense que, on ne va pas les applaudir tous les… Mais ce qui manque dans cette société, c'est de la gratitude pour ces populations.
Un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, même s'il est passionnant et vous êtes passionné, ce qui me convient tout à fait. Vous écrivez, plus d'associations ont été créées durant les 30 dernières années que depuis 1900. De mon point de vue, s'il y a autant d'associations qui se créent, qui existent, c'est parce qu'il y a une défaillance du service public.
Sans doute, alors.
Si un club sportif se crée, c'est parce que la proposition locale n'existe pas. Si une association d'aide à la personne se crée, je suis toujours réservé sur ces associations à but quand même lucratif, mais c'est aussi parce que le service public n'offre pas de service à la personne suffisant.
Oui, alors, après, moi, je suis pas nécessairement, je connais pas dans le détail. Ce sont principalement des associations de nature sportive et culturelle en tant que telles. Mais pour moi, c'est justement, alors, si on a une vision négative, on va considérer effectivement que il y a une sorte de conséquence d'un retrait des services publics, d'un retrait de l'État, qui fait que les gens sont laissés à eux-mêmes et donc ils sont obligés de régler par eux-mêmes les problèmes. Il peut y avoir…
90% du budget de la culture est dépensé dans la couronne parisienne. Il reste 10% pour toutes les autres structures du territoire. Bien sûr, dans les territoires, les gens se débrouillent avec des morceaux de ficelle et des trombones.
Mais je
Il nous
dirais…
reste le mot de la fin parce qu'il faut vraiment mettre un terme à notre entretien.
Non, mais si on a une vision un peu plus positive, moi je pense c'est pour ça que j'ai parlé de révolution silencieuse. Je pense que la vieille idée de Tocqueville sur laquelle finalement les gens ne comptaient que sur l'État est en train d'évoluer. C'est-à-dire que, pour une fois, c'est pas uniquement par dépit, par manque de moyens, par retrait de l'État. Je pense que c'est il y a aussi une évolution de la société parce que les personnes sont de plus en plus éduquées, parce que les personnes sont de plus en plus informées, quelle que soit cette nature d'information, qu'ils décident par eux-mêmes de prendre en main un certain nombre de problèmes, pas uniquement par défaut et par dépit après le retrait de l'État, mais parce qu'ils veulent, comme vous le disiez tout à l'heure, une vie qui correspond à ce qu'ils souhaitent. Au fond d'eux. Je pense qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Il y a plus cette délégation à l'État, cette délégation à Paris, cette délégation aux politiques. Je pense que c'est… Et on le voit bien aujourd'hui, les gens n'attendent plus rien des politiques. Ils s'en foutent royalement de ce qui se passe. Savoir si quel sera le ministre de l'Intérieur ou pas.
Merci Eddy Fougé. Je rappelle le titre de votre livre, Ne désespérons pas de la France et des Français, qui est paru chez les éditions de l'Aube au mois de juin 2024.
Merci beaucoup.